93.9.
Wait a minute.
This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island.
How I generate lyrics that supernaturally levitate to the top, my lyrics escalate, accelerate and leave you panicking. Take the ground from beneath your feet, leave you skywalking like Anakin. I'm sharper than the tips of Zulu spears and Olympic javelins. My style is totally buck wild, I'm most definitely happening. To your brains I'll be tapping in, to computers I'll be hacking in. Cause me, I'll be out of this world like aliens or a time traveling. I'm dabbling in the fist of fury technique when I speak. Forget karate, killing these wooden blocks I chop from concrete.
Concrete, concrete, concrete.
In Russell's head, my lyricism's just like an aneurysm inside his brain. He plays the beat in a trance and he's never feeling no pain. I could never be a racist because I possess so many faces. I'm one of those beat up bad with bags and a pair of braces, with lines longer than laces. I'm gracing you with my presence. The lyrics with flippings making you bubble like effervescence. I pulverize and bamboozle, shaving them skulls like a poodle. I smash the top of your head with a guitar that I borrowed from Noodle. I'm as animated as Japanese enemies causing calamity. Some serious savagery from my raw.
Sissoud de Gorillaz sur Divergence FM. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. On retrouve Karima.
Karima Mebarki.
Au programme de cette revue de presse, l'affaire Robert Navarro, la crise nucléaire du Japon. Un point sur la Côte d'Ivoire et l'annonce de François Hollande. Et on commence cette revue de presse par le Midi Libre qui révèle le contenu du rapport qui a poussé le PS à porter plainte contre Robert Navarro.
Après avoir annoncé mercredi que le rapport sur la fédération du PS de l'Hérault était arrivé au siège du Parti Socialiste à Paris, Midi Libre annonce que le PS porte plainte contre Robert Navarro, l'ancien premier secrétaire héraulté et actuel vice-président de la région Languedoc-Roussillon. Sous tutelle depuis octobre 2010, la fédération héraultaise a été inspectée par un collège et ce sont ses membres de la direction collégiale mise en place par Martine Aubry qui ont rendu ce désormais fameux rapport. D'après Midi Libre, cet audit financier pointerait des dysfonctionnements qui, selon Solferino, relèvent de la justice pénale. Ces dépenses concernent des frais de transport aérien, de restaurants et de logements disproportionnés ou injustifiés. Midi Libre annonce être procuré des factures d'un montant de 7 693 euros, acquittés en novembre 2008 au château de Courcelles, un hôtel 4 étoiles dans l'Aisne répertorié dans la luxueuse chaîne des Relais et Châteaux. Ce serait le prix de 10 chambres à 355 euros la nuit, qui correspond au déplacement des cadres de la Fédération au congrès de Reims. Robert et Dominique Navarro en étaient, ainsi que Philippe Sorel et d'autres élus. 10 chambres ont été facturées le 14 novembre et 9 le lendemain. Un décalage expliqué par Philippe Sorel, contacté par le journal. Il dit avoir bien passé une nuit à l'hôtel avec sa femme et être tout simplement rentré le lendemain. Selon lui, ce mode opératoire est, je cite, « immémorial ». Ça se passait ainsi à chaque congrès. Vézinet y est allé et fraîche aussi. L'article évoque d'autres déplacements, dont celui à l'université de La Rochelle, les 27 et 28 août 2010. Selon le rapport, Robert Navarro et Christian Bouillet était exclu du PS à ce moment-là et ne pouvait donc pas faire payer l'addition au parti. Pour Christian Bourquin, l'actuel président de la région, je le cite, Robert Navarro est salement mis en cause par d'anciens employés politiques de Georges Frêche qui veulent devenir calife à la place des élus. J'hésite pour savoir si on est dans la continuité des régionales avec certains qui voudraient une petite revanche sur tapis vert ou déjà dans l'affrontement Hollande-Aubry de la présidentielle. Dans les deux cas, tout ça, c'est pas beau et c'est pas bien. Robert Navarro, qui s'exprime dans les colonnes du journal également, se dit serein car selon lui, il n'a rien fait d'intentionnel. Et concernant les voyages au Maroc et en Slovénie, il répond « Je pense qu'il y a confusion des genres sur ces points. Ce sont des chèques personnels, mais s'il y a eu des erreurs d'aiguillage, je paierai et compenserai avec intérêt. Si j'ai fauté, je paierai le prix. » Une affaire à suivre.
On poursuit. Le Japon, où la zone d'évacuation autour de la centrale nucléaire n'est toujours pas élargie.
Et c'est 20 minutes qui nous apprend que près de 130 000 personnes vivent à moins de 30 km de la centrale de Fukushima. Hier, le premier ministre japonais, Naoto Kan, a refusé de doubler le périmètre de sécurité de 20 km autour de la centrale. Pourtant, l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique et l'Agence japonaise de sûreté nucléaire avaient conseillé l'application immédiate de cette mesure après avoir mesuré des niveaux de radioactivité inquiétants à une distance de 40 km. De plus, des relevés laissent supposer que des substances radioactives s'écoulent en mer en permanence. Depuis 3 semaines, donc, 130 000 personnes vivent dans un périmètre situé entre 20 et 30 km de la centrale. Le gouvernement japonais leur a, je cite, conseillé de partir ou de rester calfeutré chez eux. Problème, le gouvernement refuse de donner une consigne formelle. Donc ces gens attendent chez eux dans une zone à moitié dévastée, sans savoir combien de temps dureront les opérations à la centrale. D'autant que le gouvernement et la compagnie nucléaire TEPCO avouent qu'ils ne voient pas pour l'instant d'issue à la crise. Toujours d'après 20 minutes, une équipe de 140 militaires américains spécialistes des radiations va être dépêchée prochainement au Japon.
On reste dans le 20 minutes, mais on file direction la Côte d'Ivoire où la situation est loin d'être encore apaisée.
La Côte d'Ivoire est, je vous le rappelle, en situation de quasi-guerre civile depuis les élections présidentielles contestées par Laurent Gbagbo et ses proches, celui-ci refusant toujours de quitter le pouvoir. Les forces pro-Ouattara livrent l'assaut final, c'est le titre de l'article. En effet, Alassane Ouattara, pour rappel, a été reconnu vainqueur de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010 par la communauté internationale. Mercredi, les forces pro-Ouattara avaient pris le contrôle de Yamoussoukro. Hier, elles se sont emparées du port de San Pedro et sont arrivées aux portes d'Abidjan, la ville où siège le gouvernement gouvernement du président sortant ivoirien Laurent Gbagbo. Des tirs d'armes lourdes et de mitrailleuses ont retenti dans la ville où se sont déployés les militaires français pour, selon l'état-major, empêcher des pillages. L'un des généraux de Gbagbo, Philippe Mangou, a fait défection hier et plusieurs autres gradés auraient changé de camp également. Cette semaine, l'ONU a adopté la résolution 1975 qui impose de nouvelles sanctions au président sortant. Hier, Guillaume Soro, le premier ministre du gouvernement nommé par Ouattara, a donné jusqu'à 19h pour que Gbagbo démissionne, ce qu'il n'a pas encore fait. D'ailleurs, Ouattara a promis que l'intégrité physique du président sortant serait respectée. Pour Patrick Nguyen, le président de la Convention de la société civile ivoirienne, Gbagbo n'a que deux options, fuir ou provoquer un bain de sang. Selon les Nations Unies, les violences post-électorales auraient déjà fait 460 morts, 1 million de déplacés et plus de 100 000 réfugiés au Libéria voisin.
On revient un peu plus près de chez nous avec Monsieur François Hollande qui annonce officiellement sa candidature aux primaires du PS.
Et ce n'est pas vraiment une surprise, François Hollande rejoint Ségolène Royal, Manuel Valls et Arnaud Montebourg sur le banc des candidats aux primaires socialistes. L'ex-patron du PS avait annoncé qu'il ne postulerait à la candidature que s'il était élu président de son département de la Corrèze. Ce fut chose faite hier matin. Ici à Tulle, devant vous, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire socialiste. C'est ce qu'il a dit devant un parterre de personnes venues l'applaudir. Très solennel, il a semble-t-il déjà trouvé un slogan de campagne, mettre la France en avant. Il a également fixé ses objectifs pour la gauche, à savoir donner un projet, faire le pari de la jeunesse et réconcilier et rassembler. Actuellement dans les sondages, l'homme qui marche sur les traces d'un autre corrézien célèbre, Jacques Chirac, est donné perdant face à Dominique Strauss-Kahn. Mais rappel, le Midi Libre, c'était également le cas de Jacques Chirac 6 mois avant son élection en 1995. Et à présent, finissons comme il se doit cette chère revue de presse, c'est l'heure de l'annonce du jour. L'annonce du jour, c'est encore et toujours de la culture avec le festival Rien à voir qui aura lieu ce week-end au Baloir à Montpellier. Il s'agit d'un concept de l'association Art Collectif qui mêle musique, danse, art plastique, art numérique et art culinaire. L'idée, c'est de manger avec un buffet en continu en discutant, écoutant, découvrant et dansant autour d'une programmation musicale variée. Deux soirées seront mises en scène au Baloir sur les deux niveaux du lieu, relookés pour l'occasion de décors, d'animations, lumières et vidéos. Le festival Rien à voir, c'est au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc à Montpellier, vendredi 1er et samedi 2 avril à partir de 19h. Tarifs et réservations au 04 67 79 36 68, 04 67 79 36 68.
Et on vous invite vraiment à y aller parce que c'est un super festival. C'est le monsieur qui avait organisé le festival 2 plus 2 l'année dernière à Montarnot. Merci Karima.
Bah à demain.
Mais non, demain c'est samedi, on se retrouve lundi.
Non, moi je veux travailler encore.
On se retrouve lundi à partir de 12h15 sur Divergence. Tout de suite on enchaîne avec le coup de cœur de cette semaine. On en parle depuis lundi dernier, c'est Mister President et son album Number One. Et aujourd'hui on va s'écouter le 5e titre de cet opus. Le titre c'est Tribute to RZA.